Philosophie première par le père Philippe à Saint-Joseph, le 28 mai 85.
L'habit ne fait pas le moine, mais peut-être qu'il aide à la métaphysique. Hein. Ça doit donner un charisme particulier pour entrer dans la distinction de l'acte et de la puissance. Alors nous allons continuer cette petite introduction difficile, je sais bien, puisque c'est Aristote, mais c'est quand même bon à essayer de voir comment s'est posé le problème en philosophie. Ce problème qui, je crois, c'est l'île Maya de la philosophie. Le Mont Blanc, c'est la substance, et puis l'autre, c'est vraiment le sommet que beaucoup n'atteignent pas. C'est très intéressant de voir. Quels sont les philosophes qui ont atteint l'acte? Très grave question. Parce qu'on s'apercevrait qu'au fond, très peu de philosophies ont atteint l'acte. Très peu. Je crois que beaucoup restent à la substance. Et alors, on n'atteint pas bien la substance si on n'atteint pas l'acte. Ça serait intéressant de voir le flux et le reflux. Hein. Parce que chaque fois que notre intelligence avance, plus avant, dans la pénétration de ce qui est, nécessairement tout s'éclaire. Ça, c'est le propre de la vie de l'intelligence. Alors, nous allons continuer d'essayer d'entrer dans ce point, cette distinction que dit Aristote au point de départ, puisqu'il part de la dynamis, de la puissance, et par la puissance, il va entrer dans le problème de l'acte. Il y a le passage de la puissance type platonicien à dunaton type aristotélicien, d'où l'acte. Vous voyez bien ce mouvement qui n'est pas dialectique, mais qui est très intéressant à voir. La puissance, c'est peut-être quelque chose d'actif et passif, hein, cause et efficient. Possible, voyez, n'est plus au niveau du mouvement. La puissance, c'est la cause efficiente. Donc, c'est en vue de la réalisation d'une œuvre. L'art est une puissance. Tandis que dilatone, le possible, c'est ce qui peut être. Et on passe de l'un à l'autre en voyant la diversité des puissances. Et en voyant qu'au-delà de l'acte, il y a nécessairement la puissance. Et fondamentalement, il y a le possible. C'est ça que je crois que la trouvaille d'Aristote, c'est cette distinction entre la puissance et le possible, qui était confondue chez Platon. Alors, distinguer les deux, vous voyez, c'est passer, parce que c'est tout le temps la même chose. C'est ça qu'on doit essayer de bien comprendre, passer du devenir à l'être. C'est qui est. On passe de l'un à l'autre, du devenir à l'être. Chaque fois, on passe du devenir à l'être. Autrement dit, on doit tout le temps redécouvrir ce passage de notre connaissance immédiate. Vous n'avez pas d'expérience de l'être. C'est merveilleux. Il y a pas d'expérience de l'être comme telle. Toujours l'expérience du devenir. Mais au-delà du devenir, nous saisissons ce qui est. Et nous saisissons ce qui peut être. Puisque la réalité que nous saisissons, elle est limitée. Donc, si elle est limitée, et alors on passe de là à l'être là. Mais dynamis, c'est ce qui fait comprendre pourquoi et comment faire dynamis. La dynamis, la puissance, pour Aristote, c'est une vérité. Alors vous voyez ce passage on a vu avant Lousia, bon, Lousia est absolue, de Lousia on ne peut rien conclure, parce que c'est un principe. C'est vas-y, mais le Lousia a mis à côté le principe de la qualité. La qualité, ce sont les miettes de Lousia. Des miettes magnifiques, merveilleuses, étonnantes, mais c'est quand même quelque chose de relatif. Mais je peux regarder la qualité pour elle-même. Regardez la qualité pour elle-même. Et la qualité la plus efficiente, j'allais presque dire, je ne dis pas la qualité la plus qualité, pas du côté de l'être, mais la qualité la plus qualité du côté du devenir, c'est la puissance. C'est évident. Du côté du devenir, c'est la puissance. Volonté de puissance, pensez à Nietzsche. Mais quand on est proche, hein? Platon, Nietzsche. Volonté de puissance, c'est quand même quelque chose, la volonté de puissance. Créativité, c'est ça, la volonté de puissance. Créativité, c'est dans l'ordre du devenir. Alors, c'est la qualité dans l'ordre du devenir. La qualité dans l'ordre du devenir, c'est la puissance. C'est la qualité par excellence. Et alors, cette puissance, on peut la nier, les mégariques. Et Aristote se sert des mégariques qui ont nié la puissance pour regarder que le fait d'exister, que l'exercice, pour dire, ah, attention, il y a le possible. Alors on passe du devenir à ce qui est pour atteindre ensuite ce qui est premier, c'est l'être en acte. Je ne peux connaître le possible que par l'être en acte. Je ne peux connaître le possible que par l'être en acte. Tandis que je connais la puissance à travers l'efficacité. Celui qui fait des affaires, dans l'exercice même de son exercice, il connaît sa puissance. Je suis capable de soulever le temps. Et personne n'est capable de faire ça. Que des biceps. Comment les connaissez-vous? Par l'exercice même de l'efficacité. L'exercice même de l'efficacité me met en présence de ma puissance. Oui, au fond, aujourd'hui, parce que Leibniz a parlé de l'énergéon, l'énergie. Vous voyez ça, c'est des problèmes tellement difficiles avec la physique. Hein. L'énergie, où est-ce que ça se situe? Du côté de la puissance de la cause efficiente. L'énergéon. C'est l'énergie, la puissance d'une chose, dans tous les domaines. Capacité de transformer, de... Alors ça se saisit à l'intérieur même de l'exercice que j'ai d'efficacité, et la plupart du temps on se tient à ça. C'est très très puissant, ça. C'est extrêmement intéressant, cette ligne de force qui me conduit au possible et qui me conduit à l'acte. Vous voyez la voie d'accès par rapport au problème de l'être en acte, c'est ça qui m'intéresse. Vous voyez que cette voie d'accès est toute différente que la voie d'accès par rapport à la substance. Par rapport à la substance, qu'est-ce que c'était? C'était le tutti elena, la cuivre, l'intelligibilité. C'est par l'intelligibilité que je découvre, la source de toute détermination. C'est par l'énergie, l'énergie, la puissance, la cause efficiente, que je suis en présence du possible, qui exige de moi de découvrir l'être en acte. Oui. C'est pour voir les voies d'accès. Et ça, je crois qu'Aristote l'a très bien saisi. Il a très bien saisi ces deux grandes voies d'accès. Ça n'a pas été mis en lumière, hein, parce qu'ordinairement, hélas, c'est souvent uniquement des philologues qui étudient Aristote. Alors, ils ne voient pas. Étudier Aristote, puisqu'il est philosophe, il faut l'étudier en philosophe. Hein. Il ne peut pas être autrement. Vouloir étudier la physique, hein, la physique moderne, si on n'est pas physicien, on dirait que vous êtes fou. Faites une étude philologique de la physique. Hein, que diront les physiciens? Très bien, grattez la terre, pas plus. Vous n'étudierez jamais. Faites une étude philologique d'Aristote. Ah, oh, c'est admirable. Hein, mais comme le monde est bête. Hein, c'est. Il ne comprend pas du tout. La philologie, ce sont les mots. C'est très intéressant d'étudier ça. C'est le langage. Mais jamais le langage ne vous fera découvrir profondément la connaissance. Il y a le langage il y a la logique, il y a la connaissance. Hein, il y a toujours cette bien distinction. Le langage, c'est très très bien dans l'ordre de la communication. C'est très important dans l'ordre de la communication. La logique, c'est très important dans l'ordre de que ce soit propre, que les choses soient mises bien à l'œuvre, le règlement bien fixe. Hein, ça, c'est la logique, c'est les choses propres. C'est très très important. Mais la logique ne peut pas entrer dedans. Connaissance particulière qui est spécifiée par son objet. La logique est spécifiée par l'être présent. Mettez toujours ce parallélisme, parce que c'est très intéressant de comprendre ces choses-là. Progressivement, il faut entrer dedans et arriver à découvrir le niveau de la pensée. Parce que c'est le niveau de la pensée qu'il faut découvrir. D'où, puissante, possible, être en acte. C'est assez génial de la part d'Aristote d'avoir découvert ça. Et d'avoir découvert que la voie d'accès vis-à-vis de l'être en acte est autre que la voie d'accès de l'ousia. Une fois que c'est découvert, on dit, mais oui, c'est évident. Ah, mais c'est évident, mais il faut le découvrir. Et voyez comment, et c'est ça aussi qui est intéressant à noter, comment la cause efficiente va nous conduire à l'être en acte qui va être cause finale. De l'efficience, on découvre la cause finale. Comme de l'intelligibilité, on découvre la cause formelle. Il y a des voies d'accès qui nous permettent à découvrir comme ça le conditionnement de notre vie d'intelligence et l'intelligence. Le conditionnement de notre vie d'intelligence, c'est toujours la raison. Nous raisonnons. Mais tout raisonnement, s'il est bien fait, implique l'intelligence. Alors, à travers le raisonnement, nous découvrons le principe. Et la philosophie n'existe qu'au niveau du principe. La philosophie n'existe pas au niveau du conditionnement. Ça, c'est la psychologie. Ça, c'est la logique. Tandis que la philosophie saisit le principe. Alors, là, quand je suis au niveau, vous voyez, quand je suis au niveau de la cause efficace, dans son exercice, je peux l'écrire. Je peux décrire cette cause. C'est ce que fait Platon. Il décrit ça admirablement. Ce que fait Nietzsche, la volonté de puissance. On découvre ça admirablement. Le possible, c'est très difficile de le décrire. Essayez de décrire le possible. Dès que vous touchez l'être, vous pouvez décrire. Toute description est dès que vous touchez l'être, vous ne pouvez plus. Parce que l'imaginaire ne touche que le devenir. L'imaginaire, l'imagination, c'est de l'ordre du devenir, c'est de l'ordre du mouvement. Et l'intelligence, elle, découvre l'être. Primo cadit in intellectus est. N'oubliez jamais ça. Alors à ce moment-là, vous commencez à comprendre. Mais au-delà du conditionnement, vous découvrez l'être. Alors il faut voir ces deux grandes voies d'accès, celle de la substance, celle de l'acte. Et ça, c'est la découverte d'Aristote. Alors, il ne le dit pas explicitement comme je vous le dis. Hein. J'explicite en disant ça, c'est bien évident, j'explicite, j'en suis convaincu que j'explicite. Mais je défie d'expliquer Aristote en dehors de ces deux voies, de ces deux visions. Puisqu'il dit lui-même qu'il découvre la cause finale. Il le dit lui-même. Il dit lui-même qu'à travers, oui, au-delà de la cause formelle, il découvre la cause finale. Alors, où est sa cause finale? C'est l'être en acte. Alors, voyons bien. Je vous lis ce petit passage. C'est donc bien la distinction que nous faisons entre deux états de la réalité. Alors, voyez cette chose qu'il le dit, qui est intéressante. Il faut donc considérer maintenant ce qu'est l'acte et quel il est, le ti esti et le poionti. On était resté là. Voici quel est le point de départ de cette recherche. Donc il veut entrer maintenant dans ce troisième moment, qui est le moment intéressant. Comment découvrir l'être en acte? Le ti esti. Le ti esti et le poionti. dans de la qualité. Le tiesti, et qu'est-ce que c'est que l'art? Alors, le point de départ de cette recherche est ceci. Le fait d'exister pour la réalité est acte. Alors voyez le grec, pour ceux qui s'intéressent, esti de energeia ou uparkein to pragma. C'est la réalité. La réalité, c'est le fait d'exister. Alors voyez, il ne dit pas le jugement d'existence, hein. Mais le jugement d'existence est impliqué dedans. Le fait d'exister. Nous sommes-nous obligés de préciser, c'est normal. Après Aristote, il y a eu des tas de choses et des tas de confusions. Et toute confusion nous aide à entrer plus loin. Alors, il faut bien comprendre, le fait d'exister pour la réalité est acte. Qu'est-ce que c'est que l'acte ? Je suis. Quand vous dites « je suis », c'est l'acte. C'est bien évident. Le fait d'exister, c'est un point de départ. Car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance. Par exemple, nous disons que Hermès est en puissance dans le bois. Alors vous voyez toujours l'exemple qu'il donne dans le monde artistique. C'est toujours très intéressant de voir la manière dont Aristote a toujours référence à l'art. Parce que l'art manifeste tout. L'art est qualitatif, il manifeste. Alors c'est pour ça qu'on prend la question de l'exemple. C'est intéressant pour nous, parce que vous voyez, la voie d'accès à la métaphysique, c'est plus l'art que la science. Bien que c'est très désastreux de dire ça aux scientifiques, mais que voulez-vous, il faut bien le dire. Pourquoi ? Parce que c'est la qualité. La qualité est plus proche de l'être que le domaine de la quantité. Alors ça, c'est la grosse question qu'il faudrait se poser. Est-ce qu'il y a une voie d'accès particulière par la quantité, ou est-ce qu'il faut revenir au contraire à ce que dit Aristote, revenons à l'art, dans notre monde d'aujourd'hui. Est-ce que dans notre monde d'aujourd'hui, est-ce que nous pourrions avoir une voie d'accès vers le point de vue de l'être en art par le point de vue quantitatif, et non pas par le point de vue qualitatif. En Suisse, à l'école polytechnique de Zurich, il y avait Gonset, qui était professeur de logique et de mathématiques. Et alors, c'était toujours très intéressant, parce qu'il voulait faire de la philosophie, et arriver par les mathématiques à la philosophie. Par la logique, arriver à la métaphysique. Je demandais toujours à ses étudiants, est-ce que de temps en temps, Gonset fait appel à l'art? Alors il me dit, jamais. C'est ennuyeux. Parce que l'aspect qualitatif, vous voyez, et c'est pour ça que ça m'intéresse de voir ça, au point de vue méthode. Le fait d'exister pour la réalité est acte, car il n'est pas à la manière de ce que nous disons être en puissance, par exemple. Ce n'est pas un principe, c'est un exemple. Nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois. Tout le monde peut comprendre ça. Quand vous voyez un chêne, vous dites Hermès, en puissance. C'est évident, il est qu'en puissance. Et quand l'arbre est coupé, il est un peu plus proche d'Hermès. Pour passer du bois à Hermès, il faut le couper. C'est très curieux. C'est très difficile de sculpter Hermès dans un bois vivant. Parce que ça se modifierait. Alors ça ne serait plus... Il faut la mort du bois pour que la forme artistique puisse être stabilisée. Si le bois continue d'être vivant, la forme artistique ne sera pas stabilisée. Réfléchissez là-dessus, hein. C'est intéressant à voir ça. Parce que c'est comme ça. Vous voyez ces choses-là, du reste, même avec du macadam et du ciment, quand vous voyez à travers des petites plantes, hein, qui poussent à travers même du macadam, hein, la vie, elle est puissante, la vie, c'est extraordinaire, ça fait sauter la stabilité quantitative, qui quelquefois est très très forte, et la vie fait sauter ça. Ça, c'est la qualité qui domine. Évidemment, on peut étouffer, situation limite. On peut étouffer par le poids quantitatif, par la masse quantitative. On peut étouffer. Mais si on n'étouffe pas, on arrive à faire que la vie passe à travers. Par exemple, nous disons qu'Hermès est en puissance dans le bois, la moitié dans le tout. Alors, vous voyez, c'est intéressant. Il prend un exemple d'ordre qualitatif, il prend un exemple d'ordre quantitatif. La moitié dans le tout. Parce qu'elle pourrait en être retranchée. Nous disons aussi que celui qui possède la science et ne contemple pas, bien qu'il soit capable, est en puissance. On dirait aujourd'hui, il prend un exemple d'ordre psychologique, opération vitale. L'autre est en acte. Alors, c'est intéressant de voir trois espèces d'expériences qu'il prend. Trois espèces d'exemples. L'art, la quantité, le point de vue de l'opération vitale. Et voit que dans ces trois aspects-là, nous trouvons en effet deux états. C'est donc bien la distinction que nous faisons entre deux états de la réalité. Alors, réfléchissez, vous verrez toujours deux états de la réalité. Un état ultime, parfait, un état imparfait. L'imparfait est toujours du côté du devenir. Tout devenir est imparfait. Il se modifie. Donc, l'un que nous considérons comme étant parfait, c'est-à-dire non en puissance, l'autre comme étant capable de transformer, c'est-à-dire en puissance. Oui, c'est intéressant de voir que ce sont les états, perfection et imperfection. Donc, c'est cette considération, cette distinction entre deux états de la réalité qui est le point de départ de cette recherche. Toute cette recherche que nous faisons de saisir l'être en acte et l'être en puissance se fait à partir de cette constatation. Nous constatons dans la réalité qu'il y a l'être en acte et l'être en puissance, le parfait et l'imparfait. Car c'est cela qui pose un problème à l'intelligence. Comment se fait-il qu'une même réalité peut être dans deux états totalement différents ? C'est ce qui est en puissance que nous atteignons en premier lieu du côté de notre conditionnement et que nous pouvons le plus facilement découvrir. C'est curieux. L'être en devenir est plus proche de nous que l'être en acte. L'être en acte, ça nous effraie toujours un peu. Danger de mort. Ça nous effraie toujours un peu. L'être en puissance, pas du tout. Ça va très très bien. Tout à fait, chez soi dans l'être en puissance, l'être en devenir. L'acte lui-même, nous le saisissons d'abord négativement, un peu comme Lousia. Tous les principes se saisissent d'abord un peu négativement. Il faut un grand effort, il faut dépasser le devenir pour saisir les principes. Or, le dépassement se manifeste à nous d'abord par le point de vue de la négation. Donc l'acte lui-même, nous le saisissons d'abord négativement. Nous le saisissons comme ce qui est au-delà du devenir. Au-delà de ce qui est en puissance. Ce vers quoi tend la puissance. Ce vers quoi tend le devenir. Et ce qui donne à ce devenir sa signification. Nous tendons vers. C'est un terme. C'est un terme. Vous voyez ? C'est curieux, en grec, hein, fin et terme, peras telos. Ces deux expressions qui sont très intéressantes à toujours avoir. Parce qu'au fond, on a un peu la même chose. Peras. C'est le terme. C'est peut-être aussi la limite. Telos. La fin. Pour les réalités matérielles, peras et telos, ça se touche. Je vais à Rohan, Telos, Peras. Puisque quand je suis à Rohan, je m'arrête. C'est drôle. Je suis arrivé à la station. Je m'arrête. Alors, Peras, puisque je m'arrête. Terme. Telos. Termini. On arrive au terme. On arrive au terme, on s'arrête, la station. Alors, c'est le jeu constant entre Peras et Telos, tu vois, c'est, qui est très très curieux. Il y a quelque chose d'analogue du côté de la définition. bien prendre. Il y a toujours deux versants, tout le temps, tout le temps. Il y a du côté de la causalité formelle, le point de vue de la limite, de la détermination. Quand on pourrait dire la limite est à la détermination, ce que fera, c'est tout est l'autre. Il y a comme ça un petit jeu entre les deux. Et Leibniz confond limite et détermination. Est-ce que Leibniz confond télos et péras? Quand vous êtes embourbé, vous vous arrêtez. Est-ce que c'est télos ou péras? Quand vous vous embourbez, vous vous arrêtez. Vous ne pouvez pas aller plus loin. On s'arrête. Ce n'est pas la fin. Quand vous montez, vous vous arrêtez parce que vous êtes essoufflé. Vous vous arrêtez, pérance. Et alors, pour vous donner bonne conscience, télos. Vous voyez, là, c'est curieux ces choses-là. Le conditionnement, quand on est fatigué, détermine. Quand je m'embourbe, quand je suis fatigué, ça finalise. Et à partir de là, je demeure dans mon conditionnement psychologique. Et je n'atteins plus ma fin. C'est extrêmement intéressant de saisir ces choses-là et de les saisir dans notre propre exercice, parce qu'à ce moment-là, nous commençons à saisir, en effet, le conditionnement, il est tout le temps là. Et quand je suis fatigué, le conditionnement me détermine. Je m'arrête. Je me donne bonne conscience, je m'arrête. Vous savez, comme les pannes d'essence, quand les bons anges sont là, on s'arrête juste devant un poste d'essence. On s'arrête juste là, c'est merveilleux. Alors là, péras et télos. Et quand les bons anges ne sont pas là, c'est en pleine brousse. Panne d'essence. Alors là, on voit bien que c'est le conditionnement. On n'est pas arrivé au terme. Là, il faut jouer un peu là-dessus pour essayer de saisir ça. Donc l'acte lui-même, nous le saisissons d'abord négativement, comme l'ousia, comme tout principe. Nous le saisissons comme ce qui est au-delà du devenir, ce qui donne la signification au devenir. Il faut donc ensuite regarder l'acte pour lui-même. Et se poser la question, qu'est-ce qu'il est ? Poser la question, qu'est-ce que c'est que l'acte ? Quelle différence y a-t-il entre péras et télos ? La limite, l'arrêt, un arrêt facultatif, et puis télos, qui n'est pas un arrêt, ce qui me finalise ne m'arrête jamais. Ça m'attire. Pas la même chose du tout. Tant que ce qui m'embourbe hein, me met alors dans un état impossibilité d'avancer. Il faut donc essayer de saisir, de regarder l'acte pour les mêmes et se poser la question qu'est-ce qu'il est. C'est au moyen d'une induction, à partir de chacun de ces cas particuliers, réunis selon leur ressemblance profonde, que l'on peut effectuer ce dépassement. C'est ce qu'Aristote souligne en rappelant qu'il ne faut pas chercher à tout définir, mais saisir l'analogie dans une vue synoptique. C'est très curieux cette expression d'Aristote. Quand il se pose la question « qu'est-ce que c'est que l'acte ?», il dit qu'il faut le saisir dans une vision synoptique selon une proportion. Autrement dit, on est en présence, et ça c'est explicite dans la pensée d'Aristote, on est en présence. Donc, c'est toujours au livre Theta, au chapitre 6, dans le Dites le chapitre, c'est un très beau chapitre. Aristote vous dit que pour saisir l'acte, puisque l'acte est principe puisqu'il est fin. Si l'acte est principe et fin, il faut le saisir pour lui-même. Un principe, on le saisit pour lui-même. Vous ne pouvez pas saisir un principe par autre chose que le principe. Ça, la difficulté. Un principe, il est évident pour celui qui le saisit. Et pour celui qui ne le saisit pas, il n'est pas évident. Si vous êtes dans Péra, si vous êtes embourbé, vous ne saisissez pas le principe. Vous êtes embourbé. Tant que vous êtes embourbé, vous ne saisirez pas le principe. En étant crassé. On ne saisit pas le principe. Le principe se saisit par lui-même. Et il a cette intelligibilité pour lui-même. Et on doit le saisir pour lui-même, le principe. Et on ne peut le saisir que par une induction. Aristote nous dit que quand il s'agit de l'acte, c'est quand même quelque chose de tellement difficile qu'on ne peut saisir que par une induction synoptique analogique. Voici comment se présente cette démarche inductive. Alors, je vous lis ce texte fameux. Comme celui qui bâtit à l'égard de celui qui peut bâtir, comme celui qui bâtit, vous voyez que là encore on est dans l'ordre artistique, comme celui qui bâtit, le facere, vers celui qui peut bâtir, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort, l'expérience de tous les petits matins, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort, celui qui voit à l'égard de celui qui a les yeux fermés tout en possédant la vue, celui qui est séparé de la matière à l'égard de la matière, et celui qui est élaboré à l'égard de celui qui ne l'est pas, déterminons l'acte par l'une des parties de cette différence, le possible par l'autre. Mais comme c'est curieux, hein ? On cherche des expériences diverses dans les différents domaines. Alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est de saisir ces différents domaines où Aristote saisit cette distinction de deux états que nous pouvons tous saisir. Deux états. Un état d'imperfection, un état de perfection. Normalement, quand vous dormez, vous êtes dans un état d'imperfection. Vite, vite que je sois dans un état de perfection. Vite, vite que je me réveille. Vous alors, je suis dans un état de perfection. Parce que celui qui dort est dans un état d'imperfection. Ça, c'est sûr. Et celui qui s'éveille, dans un état de perfection. Donc on passe d'un état à l'autre. Et on passe dans un état à l'autre dans les différents domaines. Dans le domaine du facere. Ainsi on comprend. Celui qui bâtit vers celui qui peut bâtir. Normalement, celui qui bâtit, il est en acte. Celui qui peut bâtir, il est en puissance. C'est pour ça que celui qui bâtit et qui voit celui qui peut bâtir, là à côté, en disant, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, allez, travaille, tu verras. Celui qui est en acte est parfait à l'égard de celui qui peut bâtir. Il est imparfait. L'imparfait ne donne jamais de leçon au parfait. Celui qui est parfait n'accepte pas de recevoir des leçons de l'imparfait. C'est tout le temps comme ça. Vous n'avez qu'à essayer de comprendre. Vos petites colères, ça consiste quand vous êtes en face de celui qui est imparfait, qui peut vous donner une leçon. C'est même pas la chose. Fais-le, puis on verra. Et on a raison du reste. Seul le parfait mesure l'imparfait. L'imparfait ne mesure jamais le parfait. Donc, dans l'ordre du fait, premièrement. Deuxièmement, dans l'ordre de la vie et de la vie biologique, celui qui est éveillé à l'égard de celui qui dort. Dans la vie de connaissance et de connaissance sensible, celui qui voit à l'égard de celui qui a les yeux fermés tout en possédant la vue. Et les yeux fermés, vous pouvez voir. Il n'y a qu'à ouvrir, c'est de la lumière. trouverez les mêmes noyaux de l'être. Celui qui est séparé de la matière, quatrième. Celui qui est séparé de la matière, donc c'est le domaine de l'esprit. Celui qui est la force, celui qui est séparé de la matière, à l'égard de la matière, ce qui est élaboré à l'égard de ce qui ne l'est pas, ce qui est parfait à l'égard de ce qui ne l'est pas. Voilà cinq domaines. Cinq niveaux. Aristote a pris cinq niveaux. C'est très curieux, vous voyez. Les cinq voies d'accès vis-à-vis de Dieu. Les cinq voies d'accès vis-à-vis de l'acte. Très étonnant, ça. Cinq voies d'accès. Il y a cinq voies d'accès vis-à-vis de l'acte. Le facere, le point de vue de la vie biologique, le point de vue de la connaissance, le point de vue de l'au-delà de la matière et de la matière, et le point de vue du parfait et de l'imparfait. Il y avait des domaines très divers. Hein. Le domaine de l'activité artistique, le domaine de la vie, le domaine de la connaissance, le domaine de l'éthique, et puis le domaine radical. Ce qui est visible et ce qui est invisible. Le domaine spirituel de l'esprit, de l'immatériel. Ce qui est immatériel et ce qui est matériel. L'acte, et c'est à partir de là, vous voyez, vision, induction, synthétique, où je saisis ces différents états. Alors ça ne dit pas plus, hein. Il dit qu'on est en phase d'une induction. On est en phase de cinq expériences que nous pouvons tous faire. Et que nous avons tous fait. Ces cinq expériences, si j'interroge, quel est le lien qui existe entre cet état de perfection et d'imperfection ? Qu'est-ce que c'est que cet état de perfection, comparativement à cet état d'imperfection ? En me posant cette question, je suis en train de saisir ce qu'est l'acte par rapport à la puissance. L'acte est donc, à la fois, c'est ce qu'il dit, hein, déterminons l'acte par l'une des parties de cette différence, le possible par l'autre. Comprenons que, à travers ces cinq expériences, je suis en face d'un rapport commun. Il y a quelque chose de commun entre celui qui bâtit et celui qui peut bâtir, en celui qui voit et qui peut voir, en celui qui est éveillé et celui qui dort. Il y a quelque chose de commun, le rapport. Dans des domaines très très différents, mais il y a un rapport commun. Il y a quelque chose de commun entre ces différents états. Et ce quelque chose de commun, c'est que l'un est totalement dépendant de l'autre. L'un finalise et l'autre est finalisé. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Celui qui dort, il est finalisé par celui qui est éveillé. Celui qui voit est finalisé par celui qui peut voir. Celui qui construit est finalisé par celui qui peut construire. Et ainsi de suite. Donc il y a un petit quelque chose de commun dans ces différents rapports. L'acte est donc à la fois comme ce qui bâtit, ce qui est éveillé, ce qui voit, ce qui est séparé de la matière, ce qui est élaboré. Voilà l'acte dans ses différentes modalités. Et la puissance, les autres modalités. Donc il y a ce petit quelque chose de commun que je retrouve à ces niveaux différents. Qu'est-ce qui est commun entre le facere, la vie biologique, la connaissance, le point de vue de la matière et l'au-delà de la matière? Qu'est-ce qui est commun à tout ça? Seul l'être, ce qui est. Et donc, étant donné la diversité de ces rapports et ce qu'il y a de commun dans ces différents rapports, je vois comment je dépasse les états pour découvrir l'être. Et je vois que dans l'être, il y a nécessairement deux aspects distincts, l'être en acte et l'être en puissance. Vous voyez, le dépassement de l'aspect descriptif à la saisie du principe. L'aspect descriptif est au niveau du devenir. Le dépassement de ces deux états dans le devenir vers quelque chose qui, du côté de l'être, est acte et puissance. C'est très insuffisant, il fallait le découvrir. Une fois qu'on voit ça, c'est évident, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre facere, vie biologique, connaissance, esprit et matière, parfait et imparfait? Et qu'est-ce qu'il y a de commun? Il y a clair. Vous ne pouvez pas chercher un dénominateur commun au-delà de l'être. C'est pas l'être, puisqu'il y a esprit et matière. Il y a ce qui est lié à la matière, ce qui n'est pas lié à la matière. Donc ça ne peut pas être l'être. Ça ne peut pas être la connaissance. Ça ne peut pas être uniquement le fait de chérir. Ça ne peut pas être le point de vue du parfait et de l'imparfait. Donc, il n'y a que l'être qui est au-delà de tout cela. Donc ces différents états où il y a quelque chose de commun montrent qu'il y a quelque chose qui dépasse ces modalités particulières et qu'il faut, au niveau de l'être, découvrir ce rapport entre l'être en puissance et l'être en acte, ou l'être en acte et l'être en puissance. C'est assez calé, ça. Il faut saisir cette induction synthétique analogique. C'est difficile, hein, c'est difficile parce que c'est on rassemble toujours sous le point de vue de l'interrogation. Qu'est-ce que c'est que l'art, hein? Si vous ne posez pas la question, écrivez, c'est tout. Mais c'est l'interrogation qui exige de dépasser la description. S'il n'y a pas d'interrogation, la description ne suffit. On est tellement paresseux. Facile de décrire, difficile d'induire. Parce que l'induction est au-delà du venir. Alors on comprend cette réflexion. Aristote ne dit pas plus, hein, que celui qui comprenne, comprenne. Il est comme ça. Dans les moments difficiles, Aristote va très vite. Toujours ce qu'on fait. Dans les moments faciles, on s'étend. C'est la plaine, on s'étend. On peut. Tandis que dans les moments difficiles, on va très vite. Aristote ne donne aucune explication à cette induction synthétique analogique. Il dit simplement, non. D'un côté c'est l'acte, d'un côté c'est l'être en acte, de l'autre côté c'est l'être en puissance. Comprenez. Alors, voici la réflexion ensuite. Toutes choses ne sont pas dites également en actes, sinon d'une façon analogique. Alors, ça c'est très intéressant. Il montre tout de suite deux manières d'être en acte. Du tiesti, il passe au poyonti. C'est-à-dire de ce qu'est l'acte, il passe à la manière. Mais voyez, c'est pas le pose. Hein. Alors là, ça, c'est difficile. Hein. Ordinairement, le comment, c'est le pose. C'est le comment. Aristote ne dit pas le comment de l'acte. Il dit la qualité de poyonti. La qualité de l'acte. C'est plus subtil. Hein. Pas tout à fait la même chose. Alors, en français, on dirait les modalités de l'acte. Les modalités de l'acte, je crois, correspondent bien à ce poyonti. C'est quelque chose de particulier. Je vous lis tout de suite encore son texte, parce qu'il est beau, là. Vous pourrez y réfléchir là-dessus. Toutes choses ne sont pas dites également en acte, sinon d'une façon analogique, comme ceci est dans ceci ou vers ceci. Alors là, évidemment, c'est difficile. En tutto et pros tutto. Ainsi, cela est dans cela ou vers cela. Certains êtres, en effet, sont comme un mouvement par rapport à la puissance, d'autres comme une substance par rapport à la matière. C'est un petit passage extrêmement difficile à comprendre. Immédiatement après avoir découvert, c'est ça je crois qu'il faut saisir, immédiatement après avoir saisi ce qu'est l'acte à travers une induction qualitative, toute induction est qualitative, il montre tout de suite que, de fait, il y a deux modalités dans l'acte. Deux modalités différentes. Et c'est dans ou vers. Dans la forme et dans la matière. Et l'acte est vers la fin. Vous avez donc deux modalités de l'acte. Et il les donne tout de suite de ces deux manières-là. Et ça, c'est intéressant de voir que l'acte se présente comme dans l'exister et dans celui qui existe. Et mon opération de contemplation, elle n'est pas premièrement en moi, elle est dans celui que je contemple. Ou elle est vers celui que je contemple.